des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Bodoy. La chose semblait, comme sans doute, absolument certaine.
Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 FM et vous écoutez Des formes utiles, l'art et ses récits. Didier Hoenoudé est mon invité pour ce deuxième entretien qui prolonge le premier où nous avons parlé de ses études, de son désir de trouver sa mission et de tenter en permanence de ne pas la trahir, celle de transmettre une histoire de l'art africain. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder les différents aspects de son travail, car s'il enseigne, Didier Hoenoudé participe aussi de la création des espaces muséaux à Cotonou, dans son pays le Bénin, et défend, par ses interventions dans diverses institutions, une approche de l'art africain éloignée des stéréotypes auxquels il s'est vu confronté tout au long du temps. Bonjour Didier.
Bonjour Fabiola.
J'aimerais commencer ce deuxième entretien par une citation d'Année de la Terre de Frantz Fanon, qui est toujours d'actualité, car il me semble que c'est une position que tu défends dans ton travail, dans tes interventions. Ne payons pas de tribut à l'Europe en créant des États, des institutions et des sociétés qui s'en inspirent. L'humanité attend autre chose que cette imitation caricaturale et dans l'ensemble obscène. Si nous voulons transformer l'Afrique en une nouvelle Europe, l'Amérique en une nouvelle Europe, alors confions à des Européens la destinée de nos pays. Ils sauront mieux faire que les mieux doués d'entre nous. Mais si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, si nous voulons la porter à un niveau différent de celui où l'Europe la manifestait, alors il faut inventer, il faut découvrir. Si nous voulons répondre à l'attente de nos peuples, il faut chercher ailleurs qu'en Europe. Davantage, si nous voulons répondre à l'attente des Européens, il ne faut pas leur envoyer une image, même idéale, de leur société et de leur pensée pour lesquelles ils éprouvent épisodiquement une immense nausée. Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité camarade, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. Il y a un avant et un après la colonisation dans l'art. On ne saura jamais comment cela aurait pu être si le cours de l'histoire avait été autre. Les rencontres, donc les influences et métissages entre les cultures ont toujours existé. Mais la colonisation n'est pas une vraie rencontre. Comment l'art en pâtit ? Que faut-il pour qu'un art soit authentique? De quoi faut-il se débarrasser? Que peut-il, doit-il accepter après un tel impact?
Alors, c'est une grosse question que tu poses là, Fabiola. Je pense que l'art n'a pas uniquement pour but donc, de satisfaire une élite, là, n'a pas uniquement une mission de délectation, je dirais. L'art également est là pour éduquer, pour transmettre des messages, pour transmettre des sensations, bien sûr. Et je pense que là, et beaucoup d'artistes m'ont montré, doit parfois être un outil politique, une arme politique. Quand je dis ça, je renvoie un peu donc à Guernica de Picasso. Et je pense que donc les artistes africains ont besoin d'exprimer également leur africanité, même si je mets le thème entre guillemets. Si cela se passe ainsi, c'est parce que pendant longtemps donc les arts africains n'ont pas eu droit de cite. Ont été complètement néantisés depuis la période coloniale. On a dénié aux Africains le droit d'avoir un art. Ils devaient donc avoir un art qui était juste une pâle copie de l'art occidental. Je pense que dans tous les mouvements africanistes, les artistes africains, pour remettre au devant de la scène donc leur culture qui avait été bafouée pendant longtemps, la négritude de le mouvement donc créé par Senghor, Damas et Césaire joue également ce rôle, même s'il y a beaucoup de critiques que l'on peut formuler à l'encontre de ce mouvement-là. Tout comme il y a également des critiques que l'on peut formuler à l'encontre donc des artistes qui ne jouent uniquement que sur cet aspect donc d'africanité. Et je pense que les artistes africains ont besoin de pouvoir s'emparer de tout. Il n'y a, à mon sens, il n'y a plus de limite à ce que l'artiste peut utiliser comme outil pour construire son art. Il n'y a plus donc ces limites-là. Et je pense que l'artiste est celui qui doit penser donc un futur pour l'humanité. Et c'est également celui qui doit attirer notre attention sur les dérives que vivent donc notre monde actuel. Et je pense qu'un artiste qui passerait son temps qu'à se complaire dans les paysages idylliques et autres, je pense qu'il ne jouerait pas vraiment son rôle. Et ça vient à citer également Fanon, que tu as cité tout à l'heure, où il disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Et je pense que, justement, la mission des artistes aujourd'hui, c'est d'attirer notre attention sur les dérives de notre système actuel, mais également de nous montrer la voie à suivre. Et je pense que ça a été le rôle généralement des artistes de tout temps. Parce que, vous savez, au Bénin, les artistes sont considérés comme des êtres qui vivent en marge de la société, dans la tradition populaire, et qui sont bénis donc, qui sont bénis par une divinité, donc un génie qu'on appelle Aziza, qui leur donne la capacité de pouvoir circuler entre deux mondes, donc le monde visible et le monde invisible. Et donc cette bénédiction-là est empreinte, si on veut dire, donc, de malédiction, celle de faire donc d'eux des êtres qui voient des choses qui ne sont pas censées être vues par d'autres personnes, et donc qui ont le devoir de le dire, de relater cela, donc de servir d'intermédiaire entre le monde invisible et le monde visible. Et c'est pour cela que dans les sociétés traditionnelles, on tolère donc leur franchise, parce qu'on estime qu'ils commercent avec les dieux, qu'ils commercent avec les esprits. Et je pense que c'est le rôle des artistes, et ce rôle-là doit être poursuivi. Parce que s'il n'y a personne pour pouvoir donc mettre en garde contre donc les dérives de notre société, nous allons finir par nous retrouver au fond de l'abysse.
Et le Bénin, il a besoin d'une école d'art pour que les artistes apprennent à formuler, à mieux formuler.
Comme je dirais qu'en fait, peut-être le mot est un peu fort, beaucoup les sociétés africaines ont été corrompues par le regard occidental, la façon de voir l'occidental. On apprécie là à l'aune du prisme occidental. On va dire, par exemple, le tableau que l'on conçoit comme ceci doit respecter telles exigences. On va dire, par exemple, que lorsqu'on dessine un corps humain, il faut respecter les proportions qui viennent donc des canons grecs, tout ça. Alors que en Afrique, généralement, la perception de certaines choses n'est pas forcément liée donc au regard, c'est lié parfois à la symbolique. Donc, le canon grec qui veut que l'on représente le corps selon telle ou telle façon, ce n'est pas forcément donc la façon dont on regarde le corps en Afrique. La façon dont on appréhende le corps en Occident n'est pas la même façon dont on appréhende le corps en Afrique, par exemple. Un corps dénudé que l'on voit, par exemple, dans les campagnes, du vieil dame, dont les seins sont au vent, par exemple, le regard que les gens qui vivent dans cette région portent sur ce corps-là n'est pas un regard coupe-puissant comme on le verrait, par exemple, en Occident. Je dirais donc que la perception que nous avons de l'art en Occident, ce n'est pas la même façon dont on perçoit l'art également donc, en Afrique.
Donc une école d'art, mais une école d'art différente.
Les Africains ont besoin d'une école d'art. Si l'on veut, si l'on veut, par exemple, que cet art-là intègre le marché occidental, oui, il faudrait des écoles en Afrique, des écoles donc qui prennent modèle sur les écoles occidentales. Mais si l'on veut construire, l'on veut construire un art africain qui n'est pas influencé par l'art occidental, bah écoutez, donc ça veut dire qu'il faut laisser les Africains appréhender le monde comme ils l'entendent. Et je pense qu'une seule vue, une seule vue ne peut pas s'imposer dans l'humanité tout entière.
Didier, tu as démissionné de plusieurs postes pendant ces 20 dernières années, des postes clés qu'on convoitait peut-être. Pas simple à gérer en restant intègre. C'était difficile de faire accepter ta manière de voir ou alors pensais-tu être plus utile ailleurs? Et quels ont été les problèmes principaux auxquels tu t'es heurté pendant ce temps?
Je dirais que j'ai quitté ce poste parce que je n'étais pas. Je dirais en symbiose avec ceux avec qui je travaillais. Moi, je pars du principe que quand on s'investit dans une mission, il faut s'y investir corps et âme. Et il faut donc avoir des principes. Il faut y avoir donc des principes d'intégrité. Et quand j'ai l'impression que les gens ne suivent pas forcément ça, ne pensent pas forcément à l'intérêt donc de l'ensemble, mais pensent à leurs intérêts personnels, moi j'ai l'impression que je ne peux plus continuer donc à marcher avec ces personnes-là. Donc je suis parti parce que j'avais l'impression que ce que je disais n'était pas important et qu'on avait juste besoin de moi pour servir, faire valoir, pour dire par exemple qu'on a telle personne avec nous et pour valider donc c'est des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Donc du coup j'ai refusé donc la compromission et j'ai décidé de partir à chaque fois. À chaque fois que j'avais l'impression que mes mots ne touchaient pas et que on n'avait pas forcément les mêmes objectifs, donc je me disais que cela ne servait à rien de rester dans le système. On m'a toujours dit non, ne pars pas. Tu vas voir, à force de rester, à force de parler, les gens ont fini par changer le système. Mais j'ai jamais eu cette impression. J'ai l'impression que les gens qui sont dans le système, ils préfèrent s'y maintenir d'une façon ou d'une autre. Et peu importe donc ce que vit la population, quels sont les objectifs au départ, mais pour eux, c'est pas l'important. Et donc du coup, moi, je suis parti. Je suis parti à chaque fois.
Mais il y avait quand même des choses, tu n'es pas désenchanté complètement, peut-être tu as réussi quand même à faire bouger certaines choses. Cette pierre que tu voulais poser à ton retour d'Allemagne pour la construction du Bénin, il n'y a rien, il n'y a même pas un caillou.
Je dirais entre le rêve que j'avais et ce que j'ai réussi à accomplir dans un système extrêmement fermé, je dirais que je reste quand même insatisfait. C'est ce qui fait que peut-être je ne suis pas sûr de retourner dans une administration publique du type ministère, par exemple, où j'ai l'impression que c'est un gros panier à crabes. Mais par contre, à l'université, je suis satisfait de ce que j'ai accompli. La formation des jeunes, j'ai formé beaucoup de jeunes aujourd'hui, et qui de plus en plus commencent donc à suivre également mes traces, et qui sont brillants. Et ça, au moins, je suis heureux d'avoir apporté ça au Bénin. Mais mon passage au ministère, dans des postes de responsabilité, pensant que je pouvais changer les choses, il n'y a pas eu grand-chose qui a bougé. C'est vrai que j'ai peut-être semé des graines qui, je l'espère, d'ici quelques années, pourront éventuellement donc s'enraciner et changer un peu donc la façon de penser des gens.
Mais tu n'étais pas seul, tu n'es pas le seul à penser ou tu te sentais un pas accompagné dans cette démarche.
Je me sentais un peu seul. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, vous savez. Donc, mais la pression est telle que si vous n'avez pas, comment dire, si vous n'avez pas les reins solides, c'est le terme qu'on utilise, c'est vous vous effondrez.
J'aimerais te demander, qu'est-ce qui te guide? Lorsque tu choisis les projets sur lesquels tu travailles, et quelle est la principale qualité de ce qu'on te propose et que tu acceptes?
C'est les objectifs du projet, le public cible. Lorsque le projet, par exemple, veut atteindre le maximum de personnes, ça m'intéresse. Et lorsque c'est le projet qui veut apporter quelque chose donc à la population défavorisée, qui, je dirais non élitiste, parce que j'ai toujours été assez choqué donc de l'injustice qui existe dans le monde où une partie de la population possède tout. Et la majorité ne possède presque rien. Et donc moi, mon désir, c'est d'apporter donc à ces populations défavorisées-là des choses qui semblent loin d'elles. Là, pendant longtemps, a été considéré comme élitiste. Et on a des jeunes de familles simples qui n'avaient pas accès à l'art. Et moi, donc, le projet qui m'intéresse, c'est le projet qui touche donc ce groupe de la population. Parce que c'est assez poignant de voir le bonheur se dessiner sur le visage de quelqu'un lorsque vous lui apportez une meilleure connaissance de sa propre culture. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Et donc ces projets-là, c'est ça, les projets qui permettent de mieux comprendre l'histoire et d'apporter donc cette meilleure connaissance du savoir et des savoir-faire donc à la population à qui cela appartenait, mais qui n'en savait pas grand-chose.
Cela m'amène à cette question que je voulais te poser concernant ta participation de la restitution des 26 œuvres, l'infime part du butin de guerre que le sac d'Abomey en 1892 a ramené en France, présente dans la collection du musée du Quai Branly. Tu as fait partie de l'équipe qui a travaillé sur la restitution. Les débats ont été complexes, on a parlé de conservation, de visibilité, d'une éthique de la restitution. J'aurais aimé te poser la question, comment se construit et se transmet l'identité en l'absence d'une partie du patrimoine? Et est-ce que le patrimoine est l'identité? Et quelle a été ta position par rapport à cette restitution?
Alors, est-ce que le patrimoine se transmet, enfin, comment le patrimoine se transmet donc à l'absence de certains objets?
Oui.
Je dirais que l'identité se construit sur l'absence de ces objets. Ils sont absents, donc on les évoque. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans la culture africaine, même l'absence fait partie également de l'éducation. Puisqu'on a beaucoup de choses qui sont transmises par voie orale. Et donc, on rappelle donc le souvenir de celui qui existait et on entretient ce souvenir-là. Et je pense que donc l'absence de cet objet-là a quand même permis de continuer de transmettre donc une certaine identité. Maintenant, le retour des objets permet de pouvoir témoigner de son existence à des générations qui sont nées après la colonisation et qui ont grandi dans le moule occidental et qui n'ont plus la même façon d'appréhender les choses comme c'était donc auparavant et qui ont besoin de faits ou de témoignages pour attester de l'existence de quelque chose. Donc cette jeune génération-là, ou elle, donc les objets qui reviennent, témoignent d'un passé fastueux et d'un passé donc riche de civilisations qui leur sont transmises de façon orale donc par leurs grands-parents. Alors comment est-ce que j'ai vécu donc la restitution? Qu'est-ce que moi j'ai pensé de cela? Mais c'est extrêmement important. D'abord, un, sur le plan symbolique, parce que les cultures africaines ont été détruites, ont été niées par la colonisation. Donc le fait de restituer cela, c'est une forme de réparation aux dommages qui ont été commis pendant cette période-là. Et donc moi, il fallait donc qu'il y ait cette restitution. Donc sur le plan d'abord symbolique, mais également le fait de ramener donc des objets qui appartenaient donc à une culture, qui étaient parfois des objets de pouvoir, des objets rituels. Ça permet également à ceux qui ont été spoliés de pouvoir faire le deuil de cette période donc du passé. Et également de pouvoir donc affirmer leur dignité en tant qu'être humain ayant produit des éléments culturels extrêmement forts. Et donc je pense que ça permet de tourner la page donc sur cette période assez obscure de notre histoire et de pouvoir construire un futur qui soit beaucoup plus rayonnant.
Mais au-delà de la politique et des spécialistes dans le domaine, est-ce que cette restitution a été attendue par le peuple béninois lui-même? Elle a été accueillie comment?
Je pense que le peuple béninois lui-même, dans sa grande majorité, n'y avait pas vraiment pensé. Il y avait certaines personnes qui y pensaient. Si la majorité des Béninois n'y pensait pas, c'est pas parce qu'elle ne voulait pas forcément la restitution, mais c'est peut-être aussi parce qu'elle était pendant longtemps laissée dans l'ignorance de l'existence. Donc, des éléments de son patrimoine hors donc, du pays. Je pense qu'il faut tenir compte un peu de cela. Mais il faut dire également que dans des périodes de conjoncture comme celle-là, où les gens ont du mal, par exemple, à faire un repas par jour, et que l'on parle de restitution, et que l'on parle de construction donc d'édifices muséaux pour accueillir les objets liés à la restitution et que cela coûte une vraie petite fortune, Les gens, évidemment, vont se dire, pourquoi est-ce que vous ne ramenez les objets que vous décidez donc de prendre l'argent du contribuable pour construire donc des musées alors que nous mourons de faim? Et je pense que leur demande est légitime. Pour eux, c'est qu'est-ce qu'on y gagne? Comment est-ce que nous, donc, on se soigne? Comment est-ce qu'on soigne nos enfants? Comment est-ce qu'on instruit nos enfants? Et je pense que oui, il y a une partie de la population qui estime que la question de la restitution, elle est secondaire par rapport donc aux besoins vitaux de la population. Et je pense qu'on ne peut pas leur jeter donc la pierre parce que ces gens-là également ont entièrement raison.
C'est
Et
le
ça nous
balayeur
renvoie,
du musée de l'homme.
mais ça nous renvoie justement à cette idée selon laquelle donc la culture est élitiste, le musée est élitiste. On construit un musée, on construit des musées à renfort donc de millions d'euros, alors qu'il existe des musées que l'on aurait pu restaurer, alors que les populations ont besoin d'avoir des centres de santé plus performants, avoir des écoles, des centres de formation plus performants, avoir des éducateurs pour les former, pour les préparer à la vie. Et donc on construit des musées à coût de millions d'euros que le contribuable va devoir rembourser puisqu'il s'agit de prêts. Et donc oui, je pense que la population, certaines d'entre elles, ont raison de s'interroger sur le bien fondé donc de la construction de ces musées-là.
Mais on les construit parce que c'est une attente de l'Europe, ou on les construit parce que c'est un souhait d'une élite
Je dirais que
béninoise?
c'est une attente de l'Europe déjà. Et c'est le souhait également peut-être d'une élite qui ne vit pas les mêmes réalités que les couches sociales les plus basses. Et donc cette élite-là a besoin donc de présenter un pays propre, je dirais ça entre guillemets, que cela soit la vitrine d'un pays touristiquement viable et qui est donc visité par les touristes. Qu'on veut des infrastructures un peu sur le modèle occidental. Mais la population elle-même. Vous pensez que un Béninois irait dépenser l'équivalent de 8 euros pour aller visiter un musée? Ça lui fait un repas pour quelques semaines.
Mais de les présenter dans un musée construit, enfin un musée d'art contemporain construit,
À
excuse-moi,
l'occidental.
oui, à l'occidental, est-ce que ça fait sens
Mais c'est la question de tous les musées, la question de l'existence des musées, justement. Le musée est une conception occidentale, telle que nous le vivons aujourd'hui. Le désir de muséifier les choses, de les conserver ad vitam aeternam, c'est une conception occidentale. En Afrique, les objets vivent. Ils vivent, avant ils naissent, ils vivent leur plus belle vie et ils meurent de leur plus belle mort. Et ensuite, donc, ils sont remplacés par d'autres objets. Voilà comment fonctionne donc le système. En Afrique. Le musée occidental nous dit non, il ne faut pas que l'objet meure, il faut le conserver le plus longtemps possible afin qu'il puisse être vu par les générations à venir. Alors que nous, on transmettait donc la mémoire de l'objet ou la mémoire du sujet qui a vécu, on le transmet oralement de génération en génération. Alors que dans le modèle occidental, on veut garder vivant le sujet lui-même, ou qu'il atteste son existence auprès des générations à venir. Même quand ce sujet lui-même en a marre de vivre et veut pouvoir donc rejoindre les ancêtres. Et donc je dirais donc oui, le modèle de musée à l'occidental n'est pas forcément adapté en Afrique.
Mais tu fais partie de l'équipe en charge de la création de ce futur musée d'art contemporain du
Je fais
Bénin.
partie donc de l'équipe de préfiguration, qui va réfléchir donc sur comment est-ce que le musée va être.
Et
Oui, et
les
donc
autres
j'apporte mes
participants,
idées.
ils sont les autres participants, ils viennent d'où? Ils sont
Mais ils viennent de partout. Ils viennent du Bénin, ils viennent de France, ils viennent du Cameroun. Voilà, ils viennent un peu partout. Donc c'est des experts d'un peu partout qui ont été appelés pour réfléchir donc à un musée d'art contemporain au Bénin. Moi, j'estimais qu'il fallait un musée d'art contemporain, c'est vrai, pour les productions artistiques au Bénin. Mais le gigantisme, je dirais, la monumentalité donc de ce musée tel qu'il est prévu m'effraie un peu. Parce que en termes de collection, qu'est-ce qu'on va y mettre? Pour l'instant, donc, il n'y a pas encore d'acquisition. Et il faut penser un peu tout ça. Et moi, donc, cela me met un peu dans l'embarras de voir qu'autant d'argent va être dépensé donc, dans des édifices et plus donc dans les acquisitions, plutôt donc, que donc, de restaurer les musées existants. Et quel lien créer entre les musées existants et puis les musées, nos musées qui sont en cours de création. Donc je ne manque pas de dire, moi, de ce que je pense, de donner mes idées. Donc à l'ensemble donc du groupe.
Thank you.
Tu viens d'un petit pays de l'ouest de l'Afrique. Est-ce que tu as l'impression, ou je ne sais pas, la certitude, que cela a un impact sur les invitations, sur les collaborations qu'on te propose, sur le regard qu'on pose sur ton travail? Tu m'avais dit une fois qu'on te pose souvent les mêmes questions.
Oui. Je viens d'un petit pays qui n'est pas très bien connu. Quand on dit Bénin, par exemple, à l'extérieur, il y a beaucoup de gens qui confondent avec l'ancien royaume de Benin City, qui se trouve dans l'actuel Nigeria aujourd'hui. Il faut dire à certains Dahomey, Bukita, oui, d'accord, oui, commence à entrevoir quelque chose. Mais il faut leur dire, ben, c'est un pays qui se trouve entre le Nigeria et le Togo. Il commence à avoir un peu. C'est vrai que le Bénin n'est pas aussi connu que beaucoup de pays, parce que justement, on n'a pas de matière première. Et donc, la seule chose qu'il y a, c'est peut-être la culture. Et donc, oui, on me pose souvent les mêmes questions. Je suis obligé de répondre aux mêmes questions, toujours sur le Bénin. Qu'est-ce que le Bénin a de différent? Qu'est-ce que ce pays-là a produit? Donc, bon, ça devient un peu ennuyeux au fil du temps. Mais bon, c'est toujours intéressant quand même de... Ça me permet à moi-même également de parfois me remettre en cause sur certaines choses et puis de savoir donc toujours quoi dire.
Parmi les artistes qui ont été invités dans cette émission, des formes utiles, il y en a qui ont trouvé la fréquentation d'une école d'art inutile ou ennuyeuse, sans beaucoup d'intérêt. Qu'ils l'aient fini ou pas, ils ont trouvé d'autres ressources pour saisir mieux leurs intentions, pour comprendre comment pratiquer leur art. Penses-tu que transmettre d'une manière institutionnelle est indispensable pour un artiste aujourd'hui? Et as-tu remarqué au Bénin ou ailleurs d'autres manières au moins tout aussi viables?
La transmission de façon institutionnelle pour un artiste est nécessaire si l'artiste veut s'insérer sur le marché de l'art, par exemple, pour comprendre donc certaines choses. Et c'est vrai que beaucoup d'artistes africains ont argué donc de l'autodidactisme pour pouvoir ensuite après vendre sur le marché. Et donc ça dénote un peu une vision un peu exotiste donc de l'Europe qui veut donc des artistes exotiques et qui veut à chaque fois comparer les arts venus d'ailleurs, enfin les arts extra-européens aux arts européens, disant que ces arts extra-européens ne sont pas vraiment rentrés dans l'antichambre de l'art. C'est encore un peu, je vais emprunter le terme, les magiciens de la terre. Donc, voilà. Et donc, si un artiste contemporain aujourd'hui veut pouvoir bousculer le code du marché de l'art, je pense qu'il a besoin d'une instruction institutionnelle. Mais s'il veut continuer de participer à cette mise en scène générale autour d'un art contemporain qui serait essentiellement occidental et une périphérie constituée d'art extra-européen, donc il peut rester dans l'autodidactisme.
Mais il y avait des ateliers, ils apprenaient avec un maître.
Ben oui,
comme à l'époque.
La façon de transmettre avant, la façon de transmettre avant, c'était donc de regarder le maître, de l'écouter et de suivre, de copier ses gestes. Je pense que c'est une façon de transmettre qu'on retrouve également dans la période de la Renaissance ou dans l'Antiquité. Cela créait des sortes de liens entre le maître et les disciples. Des liens extrêmement forts. Aujourd'hui, on enseigne dans une salle de classe des techniques en leur disant, voilà, vous allez, toutes les techniques sont bonnes, vous les prenez, vous les appliquez, et puis vous avez les résultats. Donc, il n'y a plus cette interaction entre le maître et le disciple. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup d'artistes africains lorsqu'ils sont dans les écoles de formation et qui décident donc d'en partir. La façon de transmettre avant, elle était à la fois technique, mais également s'appuyait également sur des contes, des dictons. Donc un enseignement vraiment oral de savoir-faire transmis de génération en génération, mais également une pratique. Ce que je pense que la plupart ne retrouvent pas dans les écoles institutionnelles.
Mais alors il faut réinventer l'école.
Il faudrait réinventer l'école. Et je pense que sur ce point-là, beaucoup de gens en Afrique sont d'accord pour Il faut réinventer la façon dont nous éduquons, parce que le terme c'est un peu ça. On a quitté l'éducation pour arriver vers ce qu'on appelle donc l'instruction ou la formation. Alors que l'école, en fait, elle est faite pour éduquer. Donc c'est à la fois l'instruction, mais c'est également un enseignement de ce que l'on vit, donc dans la vraie vie aussi. Et ça, on a perdu ça un peu.
On dit l'histoire de l'art, mais comme dans la grande histoire, entre guillemets grande, il ne s'agit que d'une histoire parmi des possibles. Il y a des histoires de l'art africain, mais aucune écrite par un historien de l'art africain. Dans ta thèse Paradigme de l'identité dans la création contemporaine, en 2007, tu dis déjà, je cite, Il est à bien des égards troublant de constater que lorsque l'on aborde avec un interlocuteur, quel qu'il soit, le sujet de l'art africain contemporain, ce dernier fait aussitôt référence à la statuaire traditionnelle. C'est pour dire le blocage à l'œuvre, aussi bien en Occident qu'en Afrique. Une situation qui fait croire que l'art africain, quel qu'il soit, se résume à la sculpture qui plus est traditionnelle. Il suffit pour se rendre compte de cet état de fait d'observer la quantité d'écrits et d'études sur l'art ou les arts d'Afrique. Ils font la part belle à la sculpture traditionnelle parce que jugée plus authentique, plus en accord avec l'Afrique vraie. Vierge de toute influence extérieure, en particulier occidentale, est marquée le plus souvent du signe du sacré. Il est bien peu de sujets qui soulèvent autant de polémiques en histoire de l'art que l'art africain contemporain. Sa contemporanéité surtout fait couler beaucoup d'encre. Entre ceux qui pensent que la contemporanéité de l'art africain reste encore à écrire, du moins à définir, ce que tu disais maintenant comme l'antichambre de l'art, et ceux qui pensent qu'elle ne fait aucun doute, la discussion est loin d'être close. Ces spécialistes qui pensent l'art africain ont cependant en commun d'être tous, ou pour la plupart, occidentaux. Est-ce qu'à ton avis, le regard occidental sur l'art africain, il en pâtit où en fait? Il est incomplet, il est différent, il est faux, il est partiel, partial. Je sais que c'est une question complexe, mais peut-être tu peux crayonner une esquisse de réponse. Hein.
Oui, je dirais que le regard occidental sur l'art africain a longtemps été faussé. Parce que justement, ceux qui analysaient l'art africain le regardaient à travers le prisme de leur propre culture. Et donc, ce faisant, ils ont faussé le regard sur l'art contemporain africain. Je pense que pour pouvoir comprendre une culture, il faut être dans cette culture et ensuite s'en distancer pour pouvoir donc mieux l'analyser. On ne peut pas arriver et plaquer les structures préexistantes d'une autre culture sur une culture et vouloir qu'elle ressemble à celle de notre prisme. Et je pense que c'est comme ça que l'art africain a été regardé. Les Occidentaux qui sont venus en Afrique ont voulu voir dans certaines productions à usage rituel des objets d'art. Voilà comment, par exemple, des objets qui ont été spoliés pendant la période coloniale sont devenus des objets d'art, alors que pour la population, ce n'étaient pas les objets d'art, c'était des objets rituels. Je pense que c'est lié un peu à la question de l'universalisme qui a été développé durant le siècle des Lumières. La France disant, nous sommes le cœur de la civilisation universelle et nous devons sauvegarder tout ce qui appartient, enfin, tout ce qui appartient aux autres cultures pour que cela puisse être vu par les générations à venir. Donc cette question de l'universalisme à la française et qui a touché un peu l'Europe a eu, je dirais, un effet négatif sur la façon dont les Européens ont appréhendé des objets ou des sujets ou des artefacts venus d'Afrique.
Vous êtes responsable de vos idées en un sens très précis. Vous devez pouvoir en répondre, disait le philosophe Paulin Hountonji, ton compatriote. Quel serait ton rôle? Quelle est la responsabilité de l'historien de l'art, et plus particulièrement d'un historien de l'art africain?
Mais mon rôle en tant qu'historien de l'art, notamment historien de l'art africain, c'est d'abord de porter la culture africaine aux Africains et ensuite après aux Occidentaux, au reste du monde. C'est déjà donc de permettre aux Africains de pouvoir se réapproprier leur propre culture. Donc déconstruire l'imaginaire colonial qui continue de perdurer aujourd'hui et qui fait que beaucoup d'Africains ne sont pas fiers de leur propre culture et la rejettent. Donc mon rôle à moi, c'est de déconstruire cet imaginaire-là et de leur faire comprendre à quel point leur culture est belle, à quel point elle est riche, et comment est-ce qu'ils peuvent se réapproprier cette culture-là. Et ensuite, maintenant, de pouvoir montrer au reste du monde à quel point donc la culture africaine a également des choses à proposer au monde et à quel point donc l'Afrique également apporte à la création de la civilisation de l'universel, en guillemets. J'emprunte donc cela à Léopold Sédar Senghor.
les formes utiles, quelles seraient les formes utiles pour toi?
Les formes utiles, c'est assez vague, hein? Quelles seraient les formes utiles pour moi? Je dirais... Là, je réfléchis, hein.
Je te laisse réfléchir, je te pose la question suivante.
Ok.
Comme ça, on avance. Tu enseignes, mais on te sollicite aussi pour des présentations d'artistes lors d'expositions et de manifestations artistiques. Tu participes à des colloques, tu as eu des responsabilités importantes dans plusieurs institutions, tu contribues à des publications, tu voyages. Cela représente beaucoup de temps, finalement. Quel est ton moteur? Aimerais-tu que cela change? Tu parlais, il n'y a pas longtemps, d'une ferme.
Oui, effectivement. À un moment donné, on a l'impression qu'on est épuisé parce que la charge de travail est énorme, vous savez. Quand on se donne une mission et qu'on l'accomplit, qu'il n'y a pas beaucoup de compagnons avec qui on le fait, à un moment donné, on finit par être complètement épuisé. Oui, j'ai besoin parfois de me poser. Je sens le désir également, donc, de me détourner un peu de tout ça pour me consacrer à autre chose, de me déconnecter un peu de tout ça, hein, pour pouvoir après repartir de plus belle. Mais j'ai besoin vraiment de me retrouver moi-même parce qu'on a l'impression de se perdre corps et âme. Donc, dans tout le travail que l'on fait. Et on a besoin parfois également d'avoir un petit jardin dans lequel se poser pour ne penser qu'à soi-même. Oui. Oui, le désir de se retrouver face à soi-même, face à des choses plus triviales, plus simples, il est de plus en plus important.
Didier, je te laisse encore réfléchir sur les formes utiles. Nous sommes à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on la clôt par la lecture d'un extrait de Walden ou la vie dans les bois de Henry David Thoreau. Je gagnais les bois parce que je voulais vivre suivant mûre réflexion, n'affronter que les actes essentiels de la vie et voir si je ne pourrais apprendre ce qu'elle avait à enseigner, non pas quand je viendrais à mourir, découvrir que je n'avais pas vécu. Je ne voulais pas vivre ce qui n'était pas la vie. La vie est si chère. Plus que ne voulais pratiquer la résignation, s'il n'était tout à fait nécessaire. Ce qu'il me fallait, c'était vivre abondamment, sucer toute la moelle de la vie, vivre assez résolument, assez en spartiate, pour mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie. Couper en large en dents et tondre ras, acculer la vie dans un coin, la réduire à sa plus simple expression. Et plus tard, il écrit, et ça fait écho à ce que tu disais pour reprendre force et repartir. Je quittais les bois pour un aussi bon motif que j'y étais allé. Peut-être me sembla-t-il que j'avais plusieurs vies à vivre et ne pouvais plus donner de temps à celle-là. C'est étonnant la facilité avec laquelle nous adoptons insensiblement une route et nous faisons à nous-mêmes un sentier battu. Je n'avais pas habité là une semaine que mes pieds tracèrent un chemin de ma porte au bord de l'étang. Donc Didier, quelles seraient les formes utiles? Donne-moi une forme utile possible.
Je dirais une forme fonctionnelle. Pour moi, les formes utiles, c'est lié également à la fonction. Mmh. Je prendrais par exemple... je dirais quand même que le design, je commence un peu donc, à répondre donc, à cette question-là. Allier à la fois la forme à la fonction, pour moi, peut-être ça. Peut-être pour les populations qui ne sont pas habituées à vivre là pour là.
Merci Didier.
C'est moi.